de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci encore de votre fidélité. On est en plateau avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, Karim Zeribi, qui est consultant CNews, le général Bruno Clermont, général de corps aérien, et Gilles Mintré, qui est ancien diplomate du côté de Moscou. Ces mots qu'on attendait avec impatience. L'Europe est à vos côtés, le restera, eh bien, autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire. Voilà ce qu'a déclaré il y a maintenant quelques minutes. Vous avez pu le vivre en léger différé puisque la conférence de presse a été enregistrée pour des raisons de sécurité sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Le président Macron qui a également annoncé qu'il allait livrer, eh bien, 6 canons César supplémentaires, hein, qui s'ajoutent aux 12 qui étaient déjà livrés par la France. Ça fait au total 18 canons César sur les 76 que dispose notre pays. La France qui a également décidé la fourniture prochaine d'un laboratoire mobile d'analyse ADN. Il faut lutter contre toute forme d'impunité, a précisé le président français, qui appelle solennellement la Russie à accepter que les Nations Unies organisent l'exportation de céréales, ce qui nécessite d'accepter la levée du blocus russe et d'apporter toutes les garanties de sécurité aux bateaux qui circuleront justement en mer Noire dans cette zone. On va écouter à présent, le président Volodymyr Zelensky, qui lui a clairement dit que la Russie ne voulait pas la paix. Écoutez.
Donc les différents efforts qui sont entrepris par tous les partenaires pour rétablir la paix, nous constatons l'absence du côté russe de la bonne volonté pour relancer ce processus de paix. La Russie ne souhaite pas la paix. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est la guerre. En ce moment même où je vous parle, au Palais Marie, au centre-ville de Kiev, les troupes russes poursuivent leurs offensives dans le Donbass. Elles se retranchent dans le sud. Le pays agresseur doit comprendre une chose. Elle n'a pas d'alternative. Seule la solution pacifique est possible. Elle doit se mettre à rechercher la voie vers cette solution. Son objectif est de casser l'Ukraine et par là casser toute l'Europe, toute l'unité européenne.
La Russie ne veut pas la paix, c'est même le contraire, général Clermont. Pour faire la paix, on le sait, il faut être deux. Là, c'est quand même mal engagé, nous dit
La Russie veut pas la paix.
Le président Zelensky.
Mais ça fait 117 jours qu'elle veut pas la paix. Non seulement elle veut pas la paix, mais comme la guerre se passe plutôt bien, elle va continuer. Hein, donc pour l'instant, on en est, je ne dis pas qu'on en est au début des combats, parce que ça fait quand même 3 mois, on est dans une phase particulière des combats.
Ça se passe plutôt bien pour les Russes, vous me dites. Aujourd'hui, la Russie a toujours du mal à décrypter, on dit que les Russes...
C'est la première fois depuis 3 mois de guerre que les Ukrainiens sont en difficulté, dans des véritables combats d'armée à armée. La guerre d'avant, c'est une espèce de guerre ratée du côté russe, donc les Ukrainiens ont brillé dans une guerre ratée des Russes. Cette fois-ci, on a une vraie guerre armée contre armée, et malgré leurs insuffisances, les Russes ont appris de leurs erreurs. Ils ont réorganisé leur groupe de bataille, ils utilisent mieux l'artillerie, ils utilisent mieux l'aviation, ils ont concentré les efforts sur le Donbass, et 2 mois après, ça paye. Ça a mis 2 mois, on peut pas dire que c'est fulgurant, mais ça commence à payer, donc les Ukrainiens reculent. J'insiste sur le fait que les 3 chefs d'État se rendent, les 4 avec le chef d'État roumain, se rendent dans ce pays à un moment particulier. C'est la première fois que les Ukrainiens sont en difficulté. Et d'ailleurs, le discours des Ukrainiens change quand ils sont en difficulté. Plus ils sont en difficulté, plus le président Zelensky évoque la possibilité de négociation, avec toujours des phrases un peu compliquées dont on sent qu'il veut chasser les Russes d'Ukraine, mais ça fait rien. À ce moment-là, le sujet des négociations revient, et par contre, du côté russe, le sujet des négociations disparaît.
On va en venir aux négociations dans un instant, mais justement, sur cette avancée des Russes, est-ce que concrètement, mon général, aujourd'hui, ce sont les Américains qui ont l'avenir, le destin des Ukrainiens en main?
En fait, ce sont tous les pays qui fournissent de l'armement.
Donc surtout les Américains.
Les clés du succès de l'offensive, de la deuxième offensive, c'était... Il faut que les Russes apprennent de leurs erreurs de la première guerre. Ils les ont apprises, globalement, même s'ils ont des difficultés. Il y aura la bataille de la logistique. Pour l'instant, c'est les Russes qui ont pris l'avantage de la bataille de la logistique. Et pour les Ukrainiens, ça va dépendre de la capacité des Occidentaux à fournir de l'armement. Et sur ce sujet, malgré tous les efforts qui ont été faits, on est très, très, très loin du compte. On va rester très loin du compte.
Gilles Mintré, ancien diplomate à Moscou, est-ce que les conditions, d'après vous, sont bientôt réunies, justement, pour négocier un cessez-le-feu?
Non, parce que comme c'est très bien dit par le général, évidemment, on a un jeu un peu de balancier. Au début, c'était évidemment les Ukrainiens. D'ailleurs, Zelensky a toujours été dans une position plutôt ouverte sur la négociation, sur la diplomatie. Et les Russes avançaient. Et puis, il y a eu la contre-offensive ukrainienne, le fait que les Russes se soient retirés sur le Donbass. Et là, on a commencé à entendre du Kremlin dire « Mais attendez, les Ukrainiens négocient plus, on aimerait qu'ils reviennent dans la salle de réunion ». Et puis voilà, maintenant qu'effectivement ils reprennent dans le Donbass, on entend à nouveau les Ukrainiens faire des ouvertures. Zelensky hein, qui redit hein, qu'il est ouvert, qu'il va falloir trouver une solution de paix. Donc il va falloir que, pour que vraiment une négociation ait lieu, le rapport de force se stabilise d'une certaine façon. Qu'il y ait, et on pensait qu'on était proche de ça au début de l'offensive dans le Donbass et on constate que les Russes avancent. Donc mais probablement que c'est encore
Gilles Maintré,
trop tôt, malheureusement. Hein, malheureusement
au terme de cette journée avec ces quatre leaders européens qui sont aujourd'hui à Kiev pendant un moment qui est quand même crucial, vient de le rappeler le général Clermont, on se dit qu'on a fait un pas de plus vers la paix ou plutôt dans l'autre sens?
Non, clairement, un pas énorme vers la paix. On a fait un pas énorme vers la paix parce qu'il y aura... Il y aura un moment où ce rapport de force sur le terrain va peut-être se figer, se cristalliser, où il y aura la possibilité de discuter, de négocier, donc d'avoir une sortie de ce conflit qui passera nécessairement par des concessions, j'ai envie de dire de part et d'autre, mais du coup aussi des Ukrainiens. Or, Zelensky l'a dit, il n'y aura d'accord de paix que soumis à référendum des Ukrainiens. Mmh. Il est par ailleurs lui-même soumis à des oppositions internes. Hein, Zelensky, vous vous souvenez...
On a tendance à l'oublier, mais...
On l'oublie. Hein. Ouais. Timoshenko, il y a encore... Yulia Timoshenko, il y a encore 15 jours, a fait une conférence de presse très dure en disant qu'on n'accepterait rien, qu'il faudrait aller jusqu'au bout. Lui a toujours été beaucoup plus mesuré, Zelensky, et donc il faudra l'aider à faire accepter une solution de paix. Cette perspective européenne est la seule perspective possible de paix et une fois de plus d'espoir pour les Ukrainiens. Tout ça n'a pas été, enfin pour rien, de toute façon évidemment les morts auront été pour rien et ça remplacera pas les drames qui auront été subis, mais il y aura d'un seul coup un futur qui sera possible pour l'Ukraine.
On va voir ce qui s'est passé ce matin. On a beaucoup parlé de cette conférence de presse cet après-midi qui était à Kiev. Ce matin, effectivement, les leaders européens sont arrivés dans la banlieue de Kiev, et plus précisément à Irpin, avec l'émotion qui était palpable. Je vous propose de revoir les temps forts et d'écouter ces temps forts, bien sûr, puisqu'on est également sur Europe 1, avec Reda Mrabit.
Le moyen de transport est inhabituel pour des chefs d'État, mais l'image est symbolique. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi, en route dans un train pour Kiev, l'Europe derrière l'Ukraine, tel est le discours du président français en arrivant à la gare.
Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
À la mi-journée, on retrouve les trois hommes à Irpin, ville de la banlieue de Kiev, décimée après être passée durant quelques semaines sous pavillon russe, échange avec les forces armées sur place.
Je ne peux pas vous dire que c'est ici que vous verrez les images les plus dévastatrices. Il y a plus encore ailleurs. Mais au vu du contexte actuel, nous ne pouvons pas vous y emmener. Mais vous pouvez être sûr qu'il s'agit ici d'une petite partie.
On a tous vu ces images d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que, entre autres, les Ukrainiennes et les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée, mais aussi de la population ukrainienne.
Autre moment fort, la rencontre avec Volodymyr Zelensky. Les deux hommes ont longtemps échangé par visioconférence ou téléphone. Les voici en face à face pour la première fois depuis le début de la guerre. Accolade et poignée de main franche. S'ensuit une photo de famille avec une réunion au sommet pour évoquer les évolutions du conflit avec la Russie.
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la réaction du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, mais il y a une autre réaction, celle de l'ancien président russe, bien évidemment, Dimitri Medvedev. Il l'a moqué, hein, cette visite d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz et de Mario Draghi en Ukraine. Il les qualifie de fans de grenouilles, de saucisses et de pâtes. D'après lui, ce déplacement a zéro utilité. Il a aussi insinué qu'il s'enivrait à la Horikla, hein, c'est une vodka ukrainienne. Est-ce qu'il faut prendre, Gilles Maintré, ancien diplomate à Moscou, ses propos au sérieux ou pas du tout?
Il y a beaucoup de propagande interne. Ce qui est navrant, c'est de voir comment Dimitri Medvedev, qui, vous souvenez, à l'époque, était le visage de la modernité, de l'ouverture sur l'Europe, hein, lorsqu'il avait pris la présidence, et qui est, depuis le début du conflit, pas meilleur qu'un présentateur de Pierre Vicanal, hein, de la première chaîne russe, ou de Rassia Adin. Voilà, il tombe malheureusement dans l'espèce de désinformation continue auxquelles les Russes sont soumis. Si on revient sur les images, on voit que ça a été un moment fort. Alors, moi je faisais plutôt partie de ceux qui, à titre personnel, trouvaient la séquence du train ce matin.
La séquence de l'Orient Express, là.
Un peu décalée. Ouais. Vous savez, au même moment, Jean-François Copé parlait de risque du parallèle avec les années 20-30, ouais. Alors qu'ici, en France, l'extrême droite, l'extrême gauche sont parfois face à face dans certaines circonscriptions en France, comme c'était le cas dans l'Allemagne des années 20, donc face à ce danger. Évidemment, il y avait un petit côté années 20 en partant là-bas. On ne savait pas, bien sûr, quel était le contenu de cette visite. Maintenant qu'on a entendu le message, qui, une fois de plus, est historique, est très fort, voilà, on voit qu'on on a eu aujourd'hui un moment qui est peut-être un point de bascule dans le chemin vers la paix dans ce conflit.
Zéro utilité pour Dimitri Medvedev. Karim Zeribi, c'est aussi votre sentiment au terme d'une journée qu'on a qualifiée d'historique?
Non, je ne veux pas le croire. Je pense que tout ça est très excessif. Et d'ailleurs, autant d'excès que, à mon avis, masque quand même aussi autre chose du côté des Russes. Et autre chose qui ne les met pas automatiquement, de mon point de vue, en position dominante. Encore une fois, moi je crois que notre position à nous, il était inimaginable de ne pas apporter un soutien indéfectible à l'Ukraine, sur le plan moral et politique. Sur le plan militaire, il est évident que les aider à résister, et effectivement c'est lié quand même à la démarche morale et politique que je viens d'évoquer, fait durer le conflit. Et au plus le conflit dure, au moins on risque d'aller à la table des négociations. Donc, et on est pris dans cet étau-là, parce qu'on ne pouvait pas ne pas apporter de soutien, et apporter un soutien tel que nous le faisons, c'est-à-dire insuffisant pour gagner la guerre, mais suffisant pour résister, fera durer le conflit. Et au plus le conflit dure, au plus on est dans ce phénomène de balancier qui a été évoqué tout à l'heure. D'un côté, on a une résistance parfois qui prend le dessus, et donc ça donne aux Ukrainiens non pas l'envie d'aller à la table des négociations, mais de dire on peut renverser la table et on peut gagner cette guerre. Et de l'autre côté, lorsque les Russes reprennent une position dominante, eh bien, se disent mais finalement cette marche en avant, on va la poursuivre. C'est assez compliqué d'être dans cet entre-deux, mais avions-nous le choix, nous, en tant qu'Européens, et avons-nous la clé? C'est surtout ça aussi la question, donc pour sortir de ce conflit. Je n'ai pas le sentiment que nous possédions, nous, toutes les clés pour sortir de ce conflit.
Alexandre Devecchio et mon général, juste, je donne la parole dans un instant. Les leaders européens qui sont en Ukraine pour marquer les esprits, chacun y allait de sa petite phrase, vous l'aurez compris. Celle de Mario Draghi a retenu notre attention, je vous propose de l'écouter.
Tout, nous allons tout reconstruire. Ils ont détruit les crèches, les terrains de jeu, et tout sera reconstruit. Ils ont déjà bien commencé. Ils ont un système numérique pour que chaque endroit qui a été détruit soit remis en place. Ils savent exactement où se trouvent les sites qui doivent être reconstruits. Chaque famille a une application où elle peut décrire ce qui s'est passé et ils ont déjà bien avancé dans ce projet.
Alexandre Devecchio du Figaro, et c'est pas un peu avancé, Mario Draghi?
Oh, il est là aussi pour donner un peu d'espoir.
Il y en a pour 540 milliards pour l'instant.
Puisqu'on va les intégrer, mais ça c'est une des conséquences collatérales de l'intégration, ça voudra dire qu'il faudra financer tout ça. Et là encore, ça a des conséquences pour l'Europe, et je ne suis pas sûr que s'élargir, faire des transferts massifs pour un pays qui sort de la guerre, même s'il faut les aider, ça va nous permettre d'être nous plus forts. Mais je voudrais redire un mot sur ce tweet de Dimitri Medvedev, parce qu'il me frappe. Je pense qu'effectivement, il y a un style qui est presque ordurier et qui peut choquer. Et il ne s'agit pas de dire qu'il a raison. On ne s'adresse pas comme ça à d'autres chefs d'État. Mais qu'il le fasse, ça dit quand même beaucoup de choses sur ce que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne nous respecte pas du tout. Là, on présente cette réunion comme une réunion historique. Ça n'a pas l'air d'impressionner du tout les Russes qui nous marche dessus.
Ils vont se promener, qui vont boire de la vodka.
D'une certaine manière. Donc, c'est pour ça. Opération pour dire on est aux côtés des Ukrainiens. Mais encore une fois, si on n'a pas. C'est une opération qui est menée sans que dans le rapport de force on puisse réellement peser. C'est une opération qui nous affaiblit, je trouve, au lieu de nous renforcer.
Est-ce qu'on arrive à instaurer un rapport de force, mon général, puisqu'on dit souvent que les Russes ne comprennent que ce rapport de force?
Le rapport de force, il est sur tous les terrains. Il est militaire et politique. Et là, l'Union européenne envoie un signal d'unité qui est fondamental. Parce que l'Union européenne, c'est quand même compliqué de gérer les 27. Il y a des positions un peu différentes. Le sujet de la candidature de l'Ukraine, ce n'était pas facile à régler. Les trois principaux pays ont décidé de prendre une position. Il sera difficile pour les autres de ne pas s'aligner. C'est une décision de circonstance justifiée en raison de la situation en Ukraine, qui est tout à fait exceptionnelle. Je pense qu'on ne la mesure pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bombes qui tombent sur ce studio tous les jours, mais il y a beaucoup de bombes qui tombent sur l'Ukraine. Et si les Ukrainiens ont décidé que le conflit devait durer, si les Ukrainiens ont décidé qu'ils étaient tous prêts à mourir pour libérer leur pays, je pense qu'on doit respecter cette décision en les aidant. Donc ce n'est pas notre problème, en quelque sorte, c'est leur. Le nôtre, c'est de les accompagner dans cette démarche. Le seul inconvénient qu'on peut en tirer, et effectivement, on commence à le voir dans les opinions publiques, c'est le fait que les opinions publiques commencent à avoir du mal à accepter les conséquences économiques de cette guerre. Et plus la guerre sera longue, et plus les conséquences économiques seront violentes, parce qu'il a une arme terrible, Poutine. Il a mieux que les canons, il a mieux que les chars. Il a le gaz, il a le blé, il a le pétrole, et avec ça, on se rend compte qu'il sait l'utiliser à ses avantages.
Avec Gazprom qui a justement dit encore aujourd'hui qu'après l'Italie, ce serait, je crois, que les livraisons de gaz à l'Autriche qui allaient largement et fortement diminuer. Gilles Mintré, ancien diplomate à Moscou.
Oui, mais je pense que la Russie ne s'attendait pas à justement que la famille européenne fasse un front uni et permette à l'Ukraine et propose à l'Ukraine d'être candidate à l'Union européenne. De même qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la Suède et la Finlande, après 70 ans, viennent rejoindre l'OTAN. Et donc on voit bien quand même la défaite stratégique de Russie, de Vladimir Poutine dans cette guerre, où d'un seul coup, on rebat complètement les cartes européennes. Et quand on voit le tweet de Dmitri Medvedev, on voit bien que c'est une forme de fébrilité. Enfin, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc on arrive...
– On d'un côté ou de l'autre. Hein, – ça...
Non, mais je veux dire, c'est pas du tout. C'est-à-dire, c'est les Russes, quand ils veulent dire les choses, ils le disent de manière très précise et très directe. Là, il ne dit rien. À part faire de la liste, voilà, c'est du commentaire pour les médias internes, pour qu'on puisse se gosser, mais dans le fond, il n'y a aucun message.
J'attends la déclaration de Sergueï Lavrov, qui lui est toujours très clair.
Bien sûr, mais il n'y a aucun message dans le tweet de Medvedev, c'est juste du bruit.
Il y a un décalage temporel quand même, il ne faut pas le nier. Cette candidature qui est acceptée, ce statut de candidat qui est accepté, va nous mener, et le président l'a dit lui-même, vers une feuille de route qui va mettre en place des échanges, des discussions sur 10 ans, 15 ans. Or, la guerre est aujourd'hui et maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a ce décalage entre l'image de cette unité européenne qui est salvatrice, que je trouve intéressante. Encore une fois, si c'est l'amorce d'une Union européenne qui prend un virage politique véritablement, et pas simplement sur des projets, parce que je pense qu'il faut dépasser le cadre des projets, parce que sinon, je pense que c'est un modèle politique, civilisationnel qu'il faut qu'on bâtisse ensemble. Donc, et aujourd'hui, le compte n'y est pas. Si c'est ça, donc, ok, très bien, cette image, elle est historique, mais par rapport aux conséquences de la guerre qui est immédiate, l'intégration de l'Union, de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, c'est dans 10-15 ans. Je veux dire, donc il y a un décalage. Donc, et c'est peut-être aussi sur ce décalage que cet excès est permis de la part des Russes. Parce qu'au moment où l'Ukraine rentrera dans l'Union européenne, où seront Medvedev et Poutine? Certainement plus aux responsabilités comme ils y sont.
Clairement.
Donc eux, ils traitent le sujet aujourd'hui, et nous, on traite le sujet dans un avenir qui est celui du moyen terme. On est dans un décalage temporel.
Bon, général.
Actuellement, il y a 5 pays qui sont dans la salle d'attente comme candidats. Hein, on les connaît, l'Albanie, la Macédoine, la Serbie, et en particulier un bien connu qui s'appelle la Turquie. Ça fait 25 ans qu'il est dans la salle d'attente, ça n'a pas changé grand-chose à la face du monde. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce geste politique, il est à la fois politique et symbolique. Il rappelle que l'Ukraine a son avenir dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que son avenir, c'est demain matin.
Bien sûr.
C'est-à-dire que le chemin va être long. Mais c'était difficile, dans le contexte actuel, de leur dire, écoutez, vous n'êtes pas prêts. On verra plus tard si on veut de vous. Je pense que la symbolique est importante et que ça, finalement, ça ne coûte pas tellement cher aux Européens.
Mais de plus en moins, on pouvait faire quoi de plus militairement, on n'a pas la puissance. Économiquement, on n'a pas la puissance.
Différent.
On
avait c'est que profondément ça. Différent de la candidature de la Turquie. Hein. La candidature de la Turquie, il y a un non-dit depuis le début sur le caractère européen de la Turquie qui traverse les opinions publiques européennes. Sur l'Ukraine, on a une continuité culturelle et géographique avec des pays qui sont déjà dans l'Union européenne. Parce que si les Ukrainiens sont européens, alors est-ce que les Polonais ne sont pas non plus européens et les Roumains ne sont pas non plus européens? Ouais. Voilà. Donc on est dans une beaucoup plus grande évidence, en plus à un moment qui est historique, et dans les conditions dans lesquelles cette candidature a été acceptée, on imagine mal que dans deux ans, on va dire, ah ben finalement, on a regardé, on va refermer la candidature. En revanche, oui, bien sûr, ça va prendre très longtemps.
Alors,
ça va
prendre très longtemps, Alexandre, ça va prendre
au moins 10 ans.
Vous touchez un point névralgique, mais jusqu'ici, il était plus ou moins considéré que l'Ukraine était à la limite, était entre l'Europe et le monde slave. Et c'est une des raisons profondes.
Mais le monde slave, il est en Europe. Les Polonais ne sont pas slaves, les Russes ne sont pas européens. C'est la continuité culturelle et géographique qu'il y a.
Mais elle n'était pas si évidente.
Parce qu'en Russie, de l'autre côté de l'Oural, évidemment, on est dans une autre géographie.
Elle n'était pas si évidente. Du reste, moi, ce qui me pose problème dans cette Europe, c'est qu'on refuse de se définir géographiquement, culturellement. Donc, pour moi, la continuité culturelle, elle n'est pas si évidente que ça. D'ailleurs, il n'y aurait pas de guerre sinon. Et ensuite, il faudra dire qu'est-ce qu'on est culturellement, politiquement, économiquement, institutionnellement et partout. Il y a un flou artistique et je pense que c'est pour ça que l'Europe est aussi faible aujourd'hui.
Merci à tous les quatre, Karim Zeribi, Alexandre Devecchio, Bruno Clermont et Gilles Maintré d'avoir